En général, quand on parle d'un diagnostic médical ou même d'un problème d'ingénierie classique, on s'attend à une certitude absolue.
Oui, on veut du concret.
C'est ça. C'est binaire, en fait. T'as une fracture au bras, tu regardes la radio, tu vois cette fameuse ligne blanche dentelée sur l'écran, et le médecin juste à la pointer du doigt en disant que c'est cassé.
L'être humain adore ce niveau de clarté, c'est rassurant.
Exactement, on est programmé pour aimer ça, quoi. On apprécie ce qui est visible, ce qui peut être mesuré, catégorisé sans la moindre ambiguïté. Mais, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, dès qu'on quitte ce monde physique pour mettre les pieds dans la réglementation des nouvelles technologies, bah cette fameuse machine à rayons X, elle tombe complètement en panne.
Ah oui, là, la zone grise devient la norme.
Complètement, et le contraste est d'ailleurs hyper frappant dans la pile de documents qu'on épluche aujourd'hui pour notre exploration approfondie. Pour situer un peu le contexte, on est le 19 mai 2026 et on a sur la table les toutes nouvelles lignes directrices provisoires, des brouillons en fait, de la Commission européenne.
Des textes particulièrement denses.
C'est le moins qu'on puisse dire. Plus spécifiquement, on décortique les annexes I et 3 de l'IACT, la grande loi européenne sur l'intelligence artificielle. Et ce que ces textes révèlent, c'est un paysage juridique d'une complexité mais vraiment folle, où la ligne entre un outil inoffensif et une menace pour la société est d'une minceur redoutable.
C'est ça. En fait, les législateurs européens se retrouvent face au défi ultime. Comment tu encadres une technologie qui évolue infiniment plus vite que le vocabulaire juridique qui est censé la décrire?
C'est presque mission impossible sur le papier.
Ouais, et la mission de notre analyse aujourd'hui, ce n'est surtout pas de faire un cours de droit magistral sur les directives européennes. Hein.
Surtout pas, on perdrait tout le monde.
Voilà, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre la mécanique de pensée de l'Union européenne, de voir comment l'Europe décide, à quel moment précis une intelligence artificielle bascule dans cette fameuse catégorie à haut risque.
Et ce que ça implique concrètement pour nous, en fait.
Exactement. Pour les objets, les logiciels, les services de notre quotidien. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la philosophie de l'Union européenne s'éloigne totalement d'une interdiction massive et aveugle.
Ils ne veulent pas tuer l'innovation, quoi.
Non, pas du tout. L'approche, elle se veut chirurgicale. Le texte ne régule pas la technologie en elle-même, genre l'objet mathématique ou le code informatique. Il régule la conséquence potentielle.
Selon le contexte.
C'est ça, le contexte très spécifique de déploiement. L'évaluation se fonde sur le risque tangible pour la santé, la sécurité physique ou les droits fondamentaux.
Ok, décortiquons tout ça. Et on va commencer par le plus concret, le monde physique. L'annexe 1, elle s'attaque au matériel réglementé. Donc ça inclut les jouets, les ascenseurs, les grosses machines industrielles ou même les appareils médicaux.
Le matériel qu'on peut toucher, en somme.
Voilà. Et en lisant ces brouillons, j'ai tout de suite remarqué un truc. Le simple fait de glisser un algorithme super sophistiqué dans un produit physique, bah, ça ne le transforme pas d'office en une technologie à haut risque.
Non, pas du tout. Il y a des critères très stricts.
Ouais. Les textes imposent deux conditions cumulatives. D'une part, l'IA doit être le produit lui-même, ou alors agir comme un composant de sécurité au sein du produit. Et d'autre part, le produit global doit déjà être soumis à une évaluation de conformité par une tierce partie.
Selon les lois européennes qui existent déjà.
C'est ça. Alors pour vulgariser un peu cette notion de composant de sécurité, j'ai pensé à une analogie avec une voiture. L'IA qui gère tes recommandations de playlist musicale sur l'écran tactile, elle n'aura jamais, mais alors jamais le même traitement juridique que l'IA qui gère ton système de freinage automatique d'urgence.
Même si les deux tournent sur le même ordinateur de bord.
Exactement. C'est la même machine physique au final.
Et c'est une excellente analogie. En fait, la distinction réside vraiment dans la finalité et dans la conséquence d'une défaillance. Les textes juridiques définissent ce fameux composant de sécurité de manière hyper rigoureuse.
C'est-à-dire ?
L'algorithme doit soit avoir une fonction préventive explicite, donc son seul but c'est d'éviter un danger physique, soit sa défaillance directe doit mettre en péril la santé ou la sécurité humaine.
Ou les biens matériels, je crois.
Oui. L'intégrité des biens matériels aussi. Prends le cas d'un thermostat intelligent, par exemple. Tu l'intègres dans ton système domotique à la maison.
Ok.
S'il apprend juste tes habitudes pour baisser le chauffage quand tu n'es pas là et optimiser ta facture, sa mission, c'est du confort. Du confort financier énergétique.
Donc s'il plante.
S'il hallucine ou qu'il tombe en panne, la pire conséquence, c'est quoi? C'est que tu auras un peu trop froid un mardi soir dans ton salon ou que ta facture sera légèrement plus élevée. Il n'y a aucun péril physique.
Donc pas de haut risque.
Voilà, ce n'est pas un composant de sécurité.
Mais la bascule, elle s'opère si on change la mission du thermostat. Parce que si ce même algorithme, on lui demande de réguler, je sais pas, la combustion interne d'une grosse chaudière à gaz industriel...
Là, le contexte change du tout au tout.
C'est clair.
Une hallucination de l'IA, genre une erreur d'une fraction de seconde, ça provoque plus juste une petite baisse de température. Ça peut causer une accumulation mortelle de monoxyde de carbone ou carrément une explosion.
Exactement. L'IA devient un composant de sécurité critique à haut risque.
Pas parce que le code informatique est différent, hein.
Mais parce que si l'IM se trompe, des gens peuvent mourir. D'ailleurs, les sources utilisent aussi un exemple assez drôle, celui du jouet connecté, genre un ours en peluche.
Ah oui, très bon exemple.
Si l'IA intégrée sert juste à suggérer des petites comptines en fonction de la voix de l'enfant, au pire du pire, elle lance la mauvaise chanson.
Le risque vital est absolument inexistant.
C'est ça. Mais le législateur oblige quand même les développeurs à cartographier les pires scénarios.
Oui, dans tout environnement physique. Le cas du drone agricole illustre parfaitement ça.
Ah ouais, le drone, vas-y.
S'il survole un champ juste pour dire « quand il faut arroser », une erreur va causer un gaspillage d'eau, quoi.
Ou une perte de récolte sur un petit bout de champ.
Rien de dramatique pour la santé humaine. Par contre, si ce même drone est équipé d'une IA pour pulvériser des pesticides super toxiques et qu'il gère lui-même la détection des travailleurs pour s'arrêter de pulvériser quand ils sont à côté...
Oula oui, si la caméra bug, c'est la catastrophe.
Le niveau de menace explose. Une défaillance de sa vision par ordinateur, c'est une menace d'empoisonnement directe. Donc l'annexe I, elle cartographie vraiment cette frontière entre le petit inconfort matériel et le danger physique réel.
C'est fascinant. Mais ça, c'était le matériel. Parce que si l'annexe I essaye de gérer les trucs tangibles, les explosions, les collisions, l'annexe 3 s'aventure sur un terrain beaucoup plus glissant, les risques invisibles.
On entre dans la sphère des droits fondamentaux.
Voilà. Les systèmes d'IA autonomes qui peuvent impacter des trajectoires de vie entières, obtenir un job, avoir un prêt bancaire, ou même juste avoir le droit de passer une frontière.
Les textes identifient d'ailleurs 8 domaines critiques, tu sais. Des piliers de la société européenne. La biométrie, les infrastructures critiques, l'éducation, l'emploi, les services essentiels, la police, les migrations et la justice.
Et en lisant les règles sur l'emploi et la justice, il y a un truc qui m'a frappé. Un paradoxe total sur la supervision humaine.
Ah, le mythe de l'humain dans la boucle.
C'est exactement ça. Parce qu'on pourrait se dire instinctivement, bah si un humain, un vrai superviseur en chair et en os, est là à la fin pour valider la décision de la machine, le risque disparaît, non?
C'est ce qu'on a envie de croire.
L'humain servirait de filet de sécurité pour neutraliser le danger.
Eh bien, les directives démontent complètement cette illusion.
Totalement.
La présence d'un humain pour valider ou signer la décision à la fin, ça ne change strictement rien à la classification initiale. Si le but de l'IA tombe dans un des 8 domaines de l'annexe 3, bam, au risque, dès la conception.
C'est fou.
L'humain est exigé par la loi pour la conformité, hein. Tu ne peux pas vendre le système sans ça. Mais ce n'est pas une échappatoire magique. Le législateur a très bien compris que l'algorithme structure le terrain bien avant que l'humain n'intervienne.
C'est un peu comme un système GPS, en fait.
Comment ça?
Bah, le GPS choisit ton itinéraire de façon assez opaque. Toi, au volant, tu te contentes de tourner aux intersections qu'il t'indique. Techniquement, tu as le contrôle physique, tu peux freiner, accélérer...
Mais c'est la machine qui a dicté le chemin global.
Exactement. Tu n'es plus l'architecte du trajet. Tu es juste l'exécutant d'une logique préétablie. Dans les RH, c'est pareil. Si un logiciel scanne 10 000 CV et en rejette 9 000 tout seul, il a déjà façonné la réalité du recrutement.
Même si le manager clique gentiment sur « approuver » pour chaque rejet.
C'est ça. Le système reste à haut risque parce qu'il a massivement influencé les options qui restent sur la table.
En psychologie, on appelle ça le biais d'automatisation. Cette fâcheuse tendance qu'on a à faire aveuglément confiance aux recommandations d'une machine, surtout quand on est noyé sous les données.
C'est tellement vrai. Mais attends, il y a un autre point de friction dans cette annexe 3. C'est sur les banques. Et là, on fait une différence énorme entre une personne physique et une entreprise.
Oui, la frontière est complètement étanche.
Genre, si une banque utilise une grosse IA pour éplucher les bilans comptables d'une entreprise pour lui accorder un prêt commercial.
Pas de haut risque.
Pas de haut risque. Parce qu'elle évalue une entité légale, une construction juridique.
Une entreprise a des avocats, des comptables. Elle n'a pas la même vulnérabilité qu'un individu seul face à une boîte noire algorithmique.
Je comprends la logique. Mais ça se complique pour les petits indépendants, non? Genre, l'artisan du coin.
Ah, là, la bascule est immédiate.
Si la banque se dit « bon, les bilans de son entreprise sont bofs, on va demander à l'IA de fouiller dans son score de crédit personnel, ses dépenses privées... »
Le paradigme change du tout au tout. Le système passe instantanément à haut risque.
Juste parce qu'on a changé de cible.
Voilà. On ne juge plus une entité commerciale, on évalue la solvabilité et le comportement d'une personne physique. L'IA Act s'aligne vraiment sur l'esprit du RGPD ici. C'est un bouclier autour de l'individu vivant.
Bon, à ce stade, on a l'impression que n'importe quelle IA qui touche de près ou de loin à ces secteurs est condamnée à être étouffée par la réglementation. Mais, et c'est là que ça devient hyper intéressant, dans l'article 6.3, j'ai vu qu'il y avait une porte de sortie.
Le fameux mécanisme de filtre.
C'est ça, hein. C'est une échappatoire technique. L'idée, c'est de ne pas paralyser tout le monde si l'outil n'influence pas matériellement la décision finale.
Exactement. Si l'IA fait juste du tri administratif, par exemple.
Comme pour les visas ou l'immigration.
Oui, la Commission donne l'exemple d'un système qui reçoit des milliers de demandes d'asile. Si l'IA scanne les documents, détecte les doublons et classe les pièces dans des dossiers virtuels genre passeport, preuve de revenu.
Un archiviste ultra rapide, en gros.
Voilà. Tant qu'elle fait ça, elle est exemptée. Mais attention, la limite est franchie à la seconde où l'algorithme commence à attribuer une valeur ou un niveau de crédibilité.
S'y mettent un drapeau rouge, document suspect, par exemple.
Bam, au risque direct.
Ok. Le filtre autorise aussi les systèmes qui, je cite, améliorent le résultat d'une activité humaine. Et là, le terme est super glissant.
Très glissant.
Imaginons un architecte. Il fait un plan de construction, mais il y a des failles. Il donne ça à une IA générative qui réécrit complètement les calculs et propose une solution bien meilleure, plus solide.
C'est une amélioration spectaculaire du travail humain.
Bah oui. Donc selon le texte, ça passe le filtre, non?
Ah, détrompe-toi, la jurisprudence va rejeter ça catégoriquement.
Attends, pourquoi? C'est une amélioration.
Parce que dans ce cas, l'algorithme remplace l'évaluation humaine. Il génère une nouvelle substance, de nouvelles conclusions. L'exemption, elle est prévue uniquement si l'IA fait un simple contrôle qualité de surface.
Ah, genre lisser la grammaire ou vérifier le formatage.
Exactement, l'outil polit la décision finale, mais il ne la modifie pas sur le fond. C'est la différence entre modifier la forme et altérer la substance.
D'accord, la nuance est de taille. Et ce filtre couvre aussi l'analyse ex post, la détection de modèles après que la décision soit prise.
Oui, agir en dehors du flux de décision.
J'avais noté un exemple sur l'éducation, un algorithme qui scanne les notes données par un prof depuis 5 ans pour chercher des biais statistiques par rapport au reste du département.
L'algorithme ne note aucun étudiant actuel.
C'est ça. Il lève juste un drapeau rouge a posteriori pour qu'un inspecteur humain mène l'enquête. Ça passe le filtre.
Tout à fait. Et le dernier volet de ce filtre, ce sont les tâches préparatoires. L'algorithme comme assistant de recherche.
Pour un fonctionnaire, par exemple.
Voilà, un logiciel qui analyse un dossier d'aide sociale et fournit à l'agent humain toute la jurisprudence, les lois, l'historique des cas similaires.
Mais il ne lui dit pas s'il faut accepter ou refuser l'aide.
Jamais. Il prépare le terrain cognitif de l'humain sans le remplacer.
Sur le papier, c'est brillant. Ça équilibre l'innovation et la protection. Sauf que, et c'est le gros piège des brouillons, il y a une ligne rouge absolue, un bouton d'autodestruction pour ce filtre.
Le profilage.
Oui. Peu importe que ton IA fasse du tri, de la recherche ou du contrôle ex post, si elle fait du profilage, le filtre saute instantanément.
Ça nous remène à l'essence de la vie privée. Analyser ou prédire des aspects intimes d'une personne, ses performances au travail, sa santé, ses comportements.
Et l'exemple des ressources humaines dans les textes, il est d'une ironie mordante. Une boîte tech veut bien faire. Elle utilise une IA pendant les entretiens d'embauche.
Pour écouter les candidats?
Non, justement, pour écouter ses propres recruteurs. L'IA analyse leur temps de parole, leur ton, pour être sûr qu'ils n'ont pas de biais racistes ou sexistes.
L'intention est très louable.
Sur le papier, c'est de l'analyse ex post, ça devrait passer. Sauf que, pour faire ça, l'algorithme doit évaluer les réactions émotionnelles et le comportement psychologique des recruteurs en temps réel.
Il profile les recruteurs.
Voilà, la ligne rouge est franchie, le système passe à haut risque. Les bonnes intentions de l'entreprise, la loi s'en fiche complètement.
L'intrusion comportementale prime sur tout le reste. Et cette notion d'intrusion, on la retrouve poussée à son paroxysme avec la biométrie. L'annexe 3 en parle longuement.
Ah, la biométrie. On imagine tout de suite les caméras de reconnaissance faciale dans la rue.
Ou les lecteurs d'empreintes digitales aux frontières.
Mais les directives vont beaucoup, beaucoup plus loin que le visage ou la rétine. Ils parlent de biométrie comportementale.
Oui, chaque mouvement du corps devient un identifiant.
C'est fou. L'analyse de la démarche, genre la façon dont tu balances les bras en marchant, c'est une donnée biométrique.
Ta dynamique de frappe sur un clavier aussi. Le rythme de pression, les micro-pauses entre chaque lettre.
On peut en déduire ton état émotionnel ou neurologique.
Et les ondes cérébrales avec les casques EEG, pareil. Nos corps deviennent des bases de données ouvertes.
C'est pour ça que l'Europe verrouille ça sous le statut de haut risque. Mais en fouillant bien, et là j'ai trouvé ça presque morbide. J'ai vu que ces règles sur l'IA biométrique, elles ne s'appliquent qu'aux personnes physiques vivantes.
C'est un détail crucial juridiquement.
Donc si la police utilise une IA ultra avancée pour analyser l'ADN d'un cadavre ou faire de la reconnaissance faciale sur des restes humains...
Ce n'est pas de l'IA biométrique à haut risque.
C'est dingue quand même.
La logique est implacable en fait. Le règlement veut protéger le libre arbitre, l'autonomie, la vie privée de personnes qui peuvent être discriminées dans leurs actions futures. Une personne décidée n'a plus cette capacité d'action sociale.
On protège le potentiel d'action, en gros. Et cette volonté de cibler l'individu, ça explique aussi une autre subtilité. Suivre un objet physique, ce n'est pas suivre une identité.
Exactement. Le fameux suivi d'objet.
Si des caméras d'un aéroport utilisent une IA pour suivre un type de caméra, en caméra juste parce qu'il porte un manteau rouge vif très suspect.
L'IA suit la couleur du textile. Elle s'en fiche de l'écartement de ses yeux.
Ce n'est pas de la biométrie. Pareil dans un supermarché sans caisse. Si la caméra au plafond détecte juste qu'un bras a pris une boîte de céréales pour la facturer...
Reconnaissance d'action.
Donc, exempté du haut risque biométrique. Honnêtement, quand on met toutes ces nuances bout à bout, on voit bien que c'est une véritable dentelle juridique.
L'Union européenne ne veut vraiment pas jeter une couverture étouffante sur l'industrie. C'est une analyse minutieuse.
On regarde le domaine, le niveau d'influence de l'algorithme, la cible si c'est une entreprise ou une personne, et le degré d'intrusion.
Comprendre ces mécanismes, c'est ce qui nous évite de tomber dans une panique technophobe aveugle, tout en évitant aussi de laisser des systèmes prétendument inoffensifs décider du sort de millions de personnes en silence.
Le risque, au final, il n'est jamais dans les lignes de code. Il est dans le degré de pouvoir décisionnel qu'on choisit de leur donner. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion, un truc pour nos auditeurs à laisser infuser.
Ah, la question qui fâche.
Un peu, ouais. Les directives séparent bien les tâches préparatoires qui échappent aux règles strictes des décisions matérielles lourdement encadrées.
Oui, le fameux filtre de l'article 6.3.
Sauf que les documents parlent déjà de l'arrivée des IA agentes. Des systèmes qui sont capables d'agir tout seuls, de se corriger, de se coordonner entre eux.
À prochaine grande étape technologique.
Voilà. Et si ces assistants préparatoires deviennent tellement performants, avec des analyses d'une précision chirurgicale, argumentées de façon irréprochable.
Si la préparation est toujours parfaite.
C'est ça. Viendra un moment où l'humain n'osera tout simplement plus contredire la machine. Le superviseur humain va devenir un validateur passif.
Le biais d'automatisation poussé à l'extrême.
Et la belle frontière rassurante des juristes entre le modeste assistant préparatoire et le véritable décideur, elle va juste se dissoudre. Le filtre d'exemption deviendra une illusion bureaucratique totale.
Un mirage légal pour échapper aux règles.
Juste parce qu'on a poliment laissé un humain presser le dernier bouton d'approbation. À méditer, surtout que l'encre de ces directives n'est même pas encore sèche.